France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Christelle Rebière.
Il dîne avec vous sans y avoir été invité et vous gâche avec application la soirée. Il est à la nuit ce que le soleil est au jour en plein été, incontournable. Et quand vous allez dormir, il se rappelle à vous comme ça. Ah, l'insupportable zonzonnement du moustique qui vous rend fou toute la nuit, sans compter les piqûres. Son bruit s'insinue dans nos oreilles et il vampirise nos peaux. C'est la journée nationale des moustiques, figurez-vous, si. Elle existe même depuis 1897, c'est vous dire si la nuisance n'est pas nouvelle. Un fléau planétaire. Les moustiques tuent au moins 800 000 personnes dans le monde chaque année, surtout via le paludisme. Mais en France, on entend parler de plus en plus souvent du chikungunya, de la dengue et désormais aussi de la fièvre du Nil occidental. De premiers cas autochtones, c'est-à-dire des cas de contamination sur place, ont été observés en région parisienne la semaine dernière. Et quand on sait qu'une femelle moustique pond 200 œufs en pleine période de réchauffement climatique, on se demande comment on va s'en sortir. Alors, les moustiques donc, mais on peut parler aussi des frelons asiatiques ou encore des punaises de lit, tous ces insectes qui s'installent dans notre paysage, nos jardins, notre intimité. Alors, comment les éloigner, s'en débarrasser? Peut-on cohabiter avec certains? Certes, ils ont un rôle dans la biodiversité, mais enfin, on a quand même parfois du mal à se raisonner lorsqu'ils nous prennent comme plat de résistance. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, bien, moi je voulais témoigner à propos du moustique tigre, puisque j'habite à Aix-les-Bains en Savoie et on a vraiment un énorme problème depuis entre 5 à 10 ans, je dirais. On n'en avait pas du tout avant. Maintenant, c'est un fléau. Et contrairement à votre présentation, en fait, moi je trouve que le moustique tigre n'est pas du tout gênant la nuit, parce que dans la maison, moi j'ai mis des moustiquaires, j'utilise des prises qui diffusent des insecticides, c'est pas un problème. Mais le moustique tigre, il est actif à partir du moment où il fait 20 degrés à l'extérieur. Donc, quand on sort dans le jardin, à partir du moment où il fait 20 degrés, bah, personnellement, je sors avec un pantalon, des chaussettes, des chaussures, un t-shirt à manches longues, du produit anti-moustique, un fumigène. Et malgré tout, je me fais piquer. J'ai un piège
anti-moustique. Vous êtes carapassonnée et il ne manque plus que la combinaison de ski, là, Nathalie.
Presque ça. Je prends toutes les précautions, je ne laisse pas traîner d'eau. Je pense aussi que les pouvoirs publics ne prennent pas conscience de ce danger qui est vraiment un fléau. Et qui menace notre santé et qui nous pourrit la vie au quotidien, parce que je vous assure que au mois d'août, il commence à faire 20 degrés à 10 heures du matin. Et ben, on profite de son jardin de 6 heures à 10 heures du matin. Et puis après, on reste à l'intérieur. Donc, c'est un peu embêtant quand même.
Et quand il y a une période de canicule, c'est encore pire. Merci Nathalie, vous posez bien le débat. Alors, pour répondre, parce que vous posez plein de questions dans votre témoignage, pour vous répondre, Annabella Fayou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes entomologiste et responsable de l'unité arbovirus et insectes vecteurs à l'Institut Pasteur. Vous nous expliquerez plus tard ce que sont les arbovirus. Bonsoir Joël Salomon-Cavin.
Bonsoir.
Géographe, maîtresse d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne et chercheur associé au LADIS, c'est une filiale du CNRS, auteur du livre « Indésirables, les animaux mal aimés de la ville ». Vous êtes en direct de Genève. Bonsoir Jérémy Bouillet.
Bonsoir.
Encore plus loin, en direct de l'île de la Réunion. Vous êtes directeur de recherche en écologie et contrôle des vecteurs au CIRAD, qui fait de la recherche agronomique. Et enfin, bonsoir à Stéphane Bras.
Bonsoir.
Porte-parole nationale de Prozan, la chambre syndicale de dératisation, de désinsectisation et de désinfection. On va peut-être commencer avec vous, Jérémy Bouillet. Le moustique tigre, vous le connaissez bien. Est-ce que, comme le dit Nathalie, c'est surtout à partir de 20 degrés qu'il se réveille ?
Eh bien oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Nathalie, et d'ailleurs je suis un peu comme elle, c'est-à-dire que je me protège en permanence contre ces piqûres, parce que je suis beaucoup piqué, que ce soit en France, dans le sud de la France, ou à La Réunion. Et en plus, à La Réunion, le gros problème, c'est qu'il nous transmet des arbovirus, justement. Donc vous savez que récemment, il y a eu une grosse épidémie de chikungunya, et qu'on a régulièrement des épidémies de dengue.
Qu'est-ce qu'on appelle les arbovirus, justement?
Alors ce sont des virus transmis par les moustiques à l'homme, quoi.
D'accord.
Les plus connus dans ceux qui sont transmis par le moustique tigre à l'homme, il y a la dengue, le chikungunya et le zika.
Mm-hmm. On va y venir dans le détail. Ouais.
Voilà, on en parlera après. En tout cas, je suis d'accord sur l'activité du moustique tigre. Après, quand il fait très chaud, par exemple à 41 degrés en plein milieu de journée, son activité va diminuer aussi et il piquera surtout à l'ombre. Donc, le problème souligné là, donc, par Nathalie et à elle, mais ça dépend aussi d'à quel endroit on est. Donc, si on se met à un endroit exposé au soleil ou avec du vent, ça va le gêner un peu et on sera moins piqué. Donc, par contre, à l'ombre et effectivement à des températures entre 20 et 30 degrés, ben, ce sera parfait pour que le moustique nous pique.
Mmh. Ce moustique tigre, Annabella Fayou, il est arrivé depuis combien de temps dans notre pays ? Alors, elle nous disait, notre auditrice, à peu près 5 à 10 ans. En tout cas, chez elle, écoutez, en Savoie.
Oui, il est arrivé en France en 2004, dans le sud-est de la France, à partir de la frontière italienne, puisqu'il est arrivé en Europe dans les années 90. Et aujourd'hui, 20 ans après, il y a à peu près 80% du territoire de l'Hexagone qui est couvert par ce moustique. Et évidemment, à Aix-les-Bains, le moustique tigre qui pique de la journée, c'est une nuisance. Et en même temps, comme dit Jérémy, il est capable de nous transmettre des arbovirus, des virus transmis par des arthropodes, et dont la dengue, le chikungunya.
Mais est-ce qu'il est pire que les autres moustiques ? Parce qu'on parle beaucoup de lui, parce qu'il est facilement reconnaissable hein, avec ses zébrures, mais est-ce qu'il est pire que les autres ?
En fait, sur les 67 espèces de moustiques que compte l'Hexagone, le moustique tigre est arrivé récemment. C'est ce qu'on appelle une espèce invasive, puisque en fait, il n'était pas présent avant 2004. Il est arrivé, il a colonisé en fait un espace, un habitat où il n'y avait pas de moustiques. Donc, il y avait très peu de compétiteurs, d'où son succès. C'est pour ça que c'est le moustique qu'on voit dans les maisons, à l'extérieur des maisons, dans des gîtes larvaires d'origine artificielle créés par l'homme. Donc, forcément, ce type de gîte, il y avait auparavant très peu de moustiques.
Donc, c'est pour ça mais pourquoi il se sent si bien dans nos villes ?
Il se sent si bien dans nos villes parce qu'il a le gîte, le couvert. C'est-à-dire qu'en fait, il pique essentiellement l'homme, principalement. Hein. C'est-à-dire prend du repas de sang, notamment la femelle, que la femelle qui pique, prend du sang sur l'homme.
Ah oui, alors attendez, c'est important ce que vous êtes en train de dire au détour d'une phrase, Annabella Fayou. Ce sont uniquement les femelles qui piquent. Ça, c'est très important.
Il n'y a que les femelles qui piquent. Les femelles piquent parce qu'elles prennent du sang qui contient tout ce qu'il faut pour pouvoir développer les œufs.
D'accord.
Et ces œufs qui sont pondus tous les 5 à 10 jours, hein, en fonction des espèces, mais moustique tigre, c'est à peu près tous les 5 jours. Elle va pondre environ 100 à 200 œufs. Tous les 5 jours, une femelle peut vivre en moyenne de 3 semaines à 2 mois. Ça va dépendre de l'environnement dans lequel la femelle évolue. Et sachant que la moitié des œufs sont des femelles. Donc vous voyez que ça s'amplifie très très vite et notamment quand il fait chaud, comme actuellement où il y a des épisodes de canicule, de forte chaleur entrecoupées en fait de saisons pluvieuses, enfin de pluie.
Mais est-ce que la chaleur le favorise ou est-ce que c'est plutôt l'humidité qui le favorise ?
En fait, ça va ensemble. Ça va ensemble parce que le moustique, il y a deux phases. Il y a une phase aquatique, il a besoin d'eau pour développer les larves, et une phase aérienne dans les adultes qui vous piquent, qui a besoin aussi d'humidité pour pouvoir survivre à des fortes températures. Sachant qu'en fait, les moustiques, comme la plupart des insectes, sont incapables de réguler leur température corporelle. Donc, leur activité va dépendre de la température à l'extérieur. Donc, plus il va faire chaud, évidemment, c'est une certaine limite, hein, et plus il va faire chaud, plus, en fait, le métabolisme du moustique va s'accélérer. Donc, elle va réaliser un cycle de développement beaucoup en un temps plus court. Hein. C'est-à-dire, en fait, si à 25 degrés, entre l'œuf et l'adulte, ça prend 10 jours, si à 30 degrés, ça va prendre 7-8 jours. Donc, forcément, on aura davantage de moustiques parce que le temps de génération du moustique va être raccourci.
Mais est-ce qu'il pique vraiment plus tôt le soir ? Parce qu'on a la sensation, quand on se retrouve dehors à l'apéro en ce moment, que c'est pas très facile, que c'est le moment du dîner pour eux quand même.
Ben le moustique va s'exposer à l'extérieur quand les températures vont être un peu plus basses que de la journée, notamment maintenant. Vous n'allez pas avoir un moustique qui va vous piquer en plein soleil. Mmh. Donc forcément, actuellement, la fin de journée, la température va baisser. Donc le moustique va être en activité. Et comme vous allez être pas en activité vous-même, puisque vous restez assis, vous êtes une proie facile pour les moustiques.
Oui, j'ai bien retenu ce que vous disiez tout à l'heure, le gîte et le couvert. Stéphane Bras, vous vouliez intervenir.
Oui, absolument. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je ne peux que confirmer, bien évidemment, ce que disent les spécialistes et les scientifiques. Nous, en tant que professionnels au sein de l'association ProSan, on est effectivement en but à la présence de cette espèce invasive depuis maintenant plusieurs années. Ce qu'il faut noter, je notais surtout ce qu'a dit votre auditrice en préalable, qu'elle prenait toutes les précautions pour se protéger. Et au passage, elle a indiqué qu'elle utilisait des fumigènes. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, mais en tout cas, elle utilise un insecticide, qui paraît logique, si vous voulez. Simplement, dans le cas du moustique tigre, il faut savoir que il peut piquer toute la journée. Les temps de repos, il est là, il les a autour des arbustes ou des petits coins où il peut se reposer alors qu'il a une activité frénétique et ensuite piquer. Et ainsi de suite. Mais attention aussi à l'utilisation, alors, de fumigènes, d'insecticides par les particuliers que nous sommes, parce qu'effectivement, on parle donc dans ce cas-là d'adulticides, on arrive sur la dernière phase et on n'intervient pas dans les phases préalables.
Oui.
Ce que nous, on conseille en tant que professionnels, vous voyez, vous faites une émission l'été, c'est logique parce que c'est là où on a les traumatismes des piqûres, des frelons, des
moustiques. Oui, c'est là où on est plus souvent en extérieur aussi, quand même.
Absolument. Mais, si on devait avoir une conscience collective de tout cela, il ne faut pas traiter le problème uniquement en été. Bien sûr qu'il faut le traiter quand il est là, mais surtout appliquer des mesures de prévention et d'anticipation que nous sommes en mesure de convenir avec des simples mesures de pédagogie et puis aussi des mesures de traitement anticipatif dans prévention. Pour éviter que la problématique se diffuse.
Alors justement, en prévention, que peut-on faire ?
Alors, ça a été évoqué très rapidement. C'est vrai que si on parle du moustique tigre, clairement, faut savoir que le gîte d'un moustique tigre, ça peut être un petit godet, une plaque d'égout, enfin une coupelle dans un jardin. Donc les lieux sont multiples, y compris certains calices floraux où vous avez de l'eau qui, après arrosage automatique par exemple, reste et suffit pour être un gîte de développement pour les moustiques. Donc il y a ces mesures. Principe, il faut une association de moyens, en fait l'association des pouvoirs publics, des mairies, certaines mairies le font, en association avec nous en tant que professionnels, et à ce moment-là, on a une sorte de boîte à outils qui va nous permettre, si vous voulez, de proposer des mesures de détection, de capture, sans pour autant que ça soit des produits biocides, donc toxiques.
C'est-à-dire pas d'insecticides
Pas d'insecticides, forcément, ouais. Et on va travailler sur des spectres assez larges. Donc on peut travailler au niveau d'une commune, on peut travailler au niveau d'un département ou d'une région.
Vous pouvez les capturer en amont, ces moustiques ?
En fait, dès lors que vous avez des signalements, et nous le produisons au sein de ProSan, nous avons des contacts avec des ARS, donc les agences régionales de santé,
oui.
Voilà, et en fait, on mène des actions dans certaines villes dès lors que vous avez des signalements. Donc ce qui est important dans la logique, et je pense que les scientifiques nous me rejoindront, c'est qu'effectivement, on a besoin d'avoir des géolocalisations des zones où les moustiques sont réellement implantés, parce que c'est un peu un moustique feignant, c'est-à-dire qu'il est, il couvre pas comme à l'époque des moustiques autour de Montpellier, de Perpignan, des grandes nappes. Il travaille petite ville par petite ville, zone par zone. Donc en fait, on peut travailler d'une manière structurée avec des communes, et il faut prévoir ça non pas au mois de juin ou au mois de juillet, mais il faut prévoir ça en anticipation.
Donc en faisant anticipation, des états des lieux, c'est-à-dire en anticipation. Au début du printemps.
Par exemple, et puis on est en mesure, nous, de faire des audits, si vous voulez, de situation, et on va être en mesure de dire, par exemple, voilà, qu'il y a telle ou telle zone qui est plus à risque, et donner des mesures de simple bonne logique pour éviter que ça ne se passe. Plus
à condition que les villes vous saisissent, évidemment, Stéphane Bras.
Absolument, parce que nous travaillons dans une sphère privée, mais des villes le font, c'est très clair. Simplement, Il y avait des établissements départementalisation de démoustication. Il en existe encore un sur l'arc PACA. Il en existait un au niveau atlantique. Mm-hmm. Et ça n'est plus possible maintenant puisque ça a été délégué à l'échelon régional, oui, départemental ou local.
D'accord. On va poursuivre cette conversation parce que je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de monde au standard. On voit bien que c'est un fléau, ces moustiques. Et on va poursuivre avec Véronique. Bonsoir.
Oui, bonsoir France Inter. Merci de prendre ma question. Elle est à la fois simple et très intéressée. Comment les moustiques choisissent-ils leur proie? Parce que j'ai vraiment l'impression d'être de la chair à moustique et d'être en quelque sorte un anti-moustique naturel pour mon entourage.
Annabella Fayou, cette question est pour vous, je pense.
Pour Véronique, vous avez des peaux à moustiques, des peaux qui n'attirent pas les moustiques. C'est généralement lié, d'une part, pour l'ensemble des êtres vivants, au CO2 qu'on émane. Le CO2 va attirer les moustiques. C'est pour ça qu'en fait, il y a des pièges qu'on appelle des pièges à CO2 qui sont capables d'attirer des moustiques. Ces pièges sont utilisés pour traquer, en fait, la dispersion du moustique tique, par exemple.
Pourquoi certaines peaux plutôt que d'autres? Pourquoi celle de Véronique, par exemple?
Pourquoi celle de Véronique? Eh bien, écoutez, c'est lié au microbiote cutané, c'est-à-dire les bactéries sont présentes à la surface de la peau, qui, en fonction de notre état physiologique, en fonction de ce qu'on a mangé, en fonction de la transpiration, etc., qui font qu'en fait, ces bactéries vont libérer des molécules volatiles qui vont plus ou moins attirer les moustiques.
Donc nous ne sommes pas égaux face aux moustiques et on ne peut pas le savoir. Quand on dit qu'il y a des peaux à moustiques, c'est un peu ça, en fait.
C'est un peu ça. Et puis aussi, il y a certaines personnes qui sentent bien les piqûres de moustiques et qui réagissent bien. Oui. Bien aux piqûres de moustiques. Par exemple, à force d'être piqué dans un même endroit, on développe ce qu'on appelle une immunité vis-à-vis de la piqûre, puisque la femelle, quand elle pique, elle va libérer de la salive. Mm-hmm. Et c'est cette salive qui va être à l'origine du petit bouton là, qui vous démange. Mm-hmm. Et donc, à force d'être piqué, vous n'allez plus réagir du tout. Donc, c'est parfois, vous dites que vous n'êtes pas piqué, mais en fait, vous êtes piqué, mais vous ne réagissez pas à la piqûre.
Mm-hmm. Jérémy Bouillet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oh oui, enfin, pour préciser un petit peu le propos d'Annabella, je voulais juste dire qu'on avait identifié environ 37 composants volatiles à la surface de la peau, et le plus important, c'est l'acide carboxylique, et que donc il y a aussi une composante génétique dans ce cocktail d'odeurs. On sait qu'il y a une transmission même de l'attractivité pour les moustiques, mm-hmm, et que en plus des habitudes alimentaires comme par exemple la consommation de bière, ça a été démontré comme augmentant énormément l'attractivité, donc. Voilà, je suis d'accord avec ce que disait Annabella et je voulais juste dire qu'il y a aussi une composante génétique,
bien
comme
sûr,
le disait l'auditrice.
Et le CO2, donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous sentent respirer, si j'ose dire.
Oui, tout à fait, oui. Il y a le CO2, il y a d'autres, comme l'acétone ou d'autres cétones qui sont dans la laine humaine. Et ça, c'est d'ailleurs pas propre aux moustiques, les mouches tsetse en Afrique, mm-hmm, utilisent aussi ce genre d'odeur pour repérer leur proie à distance. Et puis après, c'est visuel au dernier moment. Mais on forme des flammes d'odeur qui attirent les insectes à nous de loin. Et quand ils s'approchent de nous, ils perçoivent aussi l'eau. Donc on évapore de l'eau en permanence en surface du corps humain. On est une espèce de boule d'eau chaude. Mmh. Et on a un gradient d'humidité à notre surface. Et ça leur permet de nous localiser à la fin, en plus de la vision, pour nous piquer.
Mmh. Bon, on va poursuivre. Ah oui, ce que je voulais ajouter, Stéphane Bras, c'est que souvent, Jérémy Bouillet, c'est souvent on pense que c'est la lumière qui les attire, et c'est absolument pas le cas en fait.
Non, mais là, c'est plutôt pour les moustiques nocturnes, ceux dont vous parlez au début, notamment ceux qui transmettent la fièvre West Nile.
Oui.
Et eux, c'est vrai que la combinaison d'hôtes et de lumière peut les attirer dans la maison. Et donc c'est plutôt les culex en France, mais par contre pour les Aedes qui sont diurnes, ils sont pas très attirés par la lumière, encore que le moustique tigre est capable de piquer même la nuit s'il est dans une zone éclairée justement.
D'accord. Lesquels sont les plus nombreux sur notre territoire, Annabella Fayou?
Ben, sur les 67 espèces de moustiques, oui, qu'on compte dans l'Hexagone, il y a essentiellement des culex, les Aedes, il y en a très peu.
Les culex, ils ressemblent à quoi?
Mais le culex, c'est le petit moustique un peu marron, oui. Sans les pattes rayées, et qui vous pique la nuit, d'accord. Puisque ceux-là, ce sont des nocturnes. Et ils se développent pas dans les mêmes gîtes larvaires que les moustiques, le moustique tigre, par exemple. Le moustique tigre, vous le voyez dans la maison, dans les pots de fleurs, etc. Le moustique culex, on le voit plutôt dans des gîtes chargés en matière organique. Mmh. Mais vous voyez des moustiques qui sortent de votre fosse septique, ben c'est un culex.
Mmh. Allez, on poursuit cette conversation avec Frédéric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors, moi je me demande si on ne pourrait pas développer les prédateurs des moustiques, parce que, à titre d'exemple, chez moi j'ai ce qu'on appelle des pipistrelles. Alors j'ai aucun mérite, elles se sont installées chez moi naturellement, mm-hmm. Et elles logent sous les poutres de ma terrasse, et elles mangent, paraît-il, un tiers de leur poids en moustiques par nuit, et en plus les vibrations qu'elles émettent font fuir les moustiques. Donc pour nous c'est très bien parce qu'on a très peu de moustiques, alors que des gens qui habitent pas très loin de chez moi peuvent avoir des moustiques. Et je me demande, est-ce qu'il serait possible de développer ce genre d'animaux pour manger les moustiques, en fait, qui serait un phénomène naturel.
Mmh. C'est une bonne question pour vous, Jérémy Bouillet.
Oui, donc effectivement, on utilise déjà les prédateurs, hein, par exemple les guppies et les poissons proches comme les gambusies en France et dans pas mal de pays, pour lutter contre les larves de moustiques. Donc pour les pipistrelles, elles pourraient être efficaces contre les moustiques qui vivent la nuit, qui piquent la nuit, parce que comme vous le savez, elles sortent au crépuscule. Mais par contre, contre le moustique tigre qui pique essentiellement pendant la journée, ben, ça ne peut pas fonctionner. Et le problème en plus, c'est que ces prédateurs ont une efficacité qui dépend de la densité. Donc si vous avez une forte densité de moustiques qui pourrait être efficace, mais dès qu'elle va diminuer, ils vont s'intéresser à d'autres proies. Et on sait par exemple que pour les pipistrelles, les diptères en entier représentent moins de 5% des proies, et les moustiques encore moins. Donc ils se nourrissent essentiellement de papillons et aussi de blattes. Mais pour les moustiques, ça ne suffirait pas pour entraîner une réduction de leur densité.
Mmh. On a une question aussi de Benjamin via WhatsApp qui nous dit « La nuisance de ces bestioles n'est-elle pas la conséquence de notre destruction de la biodiversité ? N'a-t-on pas détruit les prédateurs de ces animaux ?» Jérémy Bouillet.
Bon, alors effectivement, dans les villes, ça les arrange, il y a très peu de prédateurs. Mais bon, là, on a, comme le disait Annabella, une espèce invasive qui est arrivée récemment, donc qui n'a pas de prédateurs naturels. Qu'on a introduit nous-mêmes à cause des mouvements commerciaux, des déplacements notamment de containers, de pneus rechappés où on peut emmener des œufs de moustiques. Donc ça, c'est de notre faute. Ensuite, on lui offre le gîte parce que tout ce qui est pot de fleurs, canettes de Coca-Cola, plastique, paquets de chips qui peuvent être laissés dans la nature favorise son développement. Mm-hmm. D'ailleurs, la première auditrice, Nathalie, disait qu'il y avait une responsabilité des pouvoirs publics, mais il y a avant tout une responsabilité du public, parce que il faut que tout le monde, de manière collective, lutte en limitant au maximum la présence de ces gîtes larvaires. Et ça, il n'y a que les gens qui peuvent le faire eux-mêmes, parce qu'il faut que tout le monde le fasse pour que ça fonctionne.
Mmh. J'aimerais bien qu'on en parle avec vous, Joël Salomon-Cavin. On ne vous a pas encore entendu depuis le début de cette émission. Vous êtes géographe, maîtresse d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne et chercheur associé au LADIS qui dépend du CNRS, justement. Les villes sont-elles vraiment responsables aussi de ces envahisseurs, on va dire, que sont les moustiques ?
Oui, bonsoir. C'est difficile de parler de responsabilité. On peut plutôt dire que il y a un énorme écho quand je parle, en fait.
Ah, pardon. C'est... Alors, on va essayer de régler ça. Stéphane Bras, vous souhaitez peut-être répondre à cette question ? Est-ce que Stéphane Bras nous entend ? On a un petit problème de liaison. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que Jérémy Bouillet, vous êtes toujours en ligne avec nous ?
Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je ne dirais pas que les villes ont une responsabilité, mais quand même, la façon dont on construit a un impact sur la production de gîtes. Et par exemple, à Singapour, où il y a des gros problèmes de dengue, il n'y a que trois types de bâtiments et d'immeubles qui peuvent être construits et qui respectent des règles strictes pour ne pas créer des gîtes à moustiques. Mmh. Et toutes les politiques qui vont vers le verdissement de la ville, c'est super au niveau du mental pour les gens, parce que des villes, et aussi pour la gestion de la température, mais en même temps, ça va pouvoir créer des gîtes. Donc effectivement, quand on va le faire, il va falloir choisir des espèces de plantes qui ne produisent pas des gîtes, parce qu'il y a des plantes, comme l'arbre du voyageur par exemple, à la base de chaque feuille, il y a des gîtes à moustiques, eh bien, la façon de choisir les arbres qu'on va mettre va pouvoir impacter la quantité de gîtes qu'on produit. Donc les villes ont effectivement une responsabilité.
On va continuer cette conversation avec Sophie qui est en Seine-et-Marne. Bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Alors moi je ne vais pas vous parler de moustiques puisque ce n'est pas le problème que j'ai eu, mais des punaises de lit. Donc j'avais ramené quelques punaises de lit avec un meuble que j'ai déménagé. Et j'ai vite réalisé ce que c'était en fait, parce que j'ai des piqûres assez douloureuses. C'est vraiment désagréable, j'avais aucune envie d'être infestée. Mmh. Et donc j'ai simplement regardé sur Google les remèdes naturels contre les punaises de lit. Et j'ai trouvé l'huile essentielle d'arbre à thé, donc tea tree, que j'ai utilisée. Je l'ai aspergée abondamment, on va dire, dans ma chambre particulièrement, puisque c'est là que j'avais été piquée. J'en ai mis dans les plantes, j'en ai mis à tous les endroits où il y avait des rainures en bois. Et je n'ai pas eu d'infestation. Je pense qu'elles ont fui. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être un remède qui peut intéresser.
Ça a été efficace. On va poser la question à Stéphane Bras, qui est porte-parole de Prozan.
Oui, écoutez, effectivement, l'utilisation d'huile essentielle peut être parfois utile. Simplement, il ne faut pas oublier qu'avec des huiles essentielles, c'est des concentrations, donc ça peut s'avérer au contraire parfaitement dangereux. À l'inverse, puisque dès l'instant
parce qu'on va les respirer, c'est ça que vous voulez dire ?
On va les respirer. Et puis regardez bien, sur les huiles essentielles, c'est déconseillé pour les femmes enceintes ou des personnes qui sont atteintes d'affections particulières. Donc attention aux remèdes, si vous voulez, que l'on trouve sur Google. Les remèdes ou les utilisations de produits bio ou naturels dont on utilise certaines bien évidemment qualités, telles que des terres de diatomée pour lutter contre la punaise des lits. Nous-mêmes, nous en utilisons. Il est clair que ça a une efficacité, mais attention, parce qu'effectivement, on est souvent en détresse quand on est face à un problème de nuisance, que ce soit les punaises, les frelons, les moustiques dont on a parlé. Effectivement, attention à l'utilisation désordonnée, je dirais, d'un produit qui peut paraître naturel, mais qui à la fin peut s'avérer dangereux ou qui va faire pire que l'origine du mal.
Donc, qu'est-ce que vous préconisez, vous, puisque c'est votre, c'est votre secteur?
Oui, là, très clairement, il s'agit de faire de la détection en anticipation d'un lieu, une sorte d'état des lieux. Ça peut être fait, par exemple, avec des acteurs de détection canine. Il y a des chiens spécialisés pour la détection de punaises des lits. Et une fois que vous avez fait cette détection, qui est un peu comme une photographie du lieu, ou une radiographie du lieu, eh bien, nous avons une trousse à outils qui permet, en fonction des endroits où se trouvent les punaises, on va amener des moyens qui s'appellent des moyens mécaniques, thermiques, éventuellement chimiques, le chaud, le froid.
C'est-à-dire on parle de traitement à la vapeur, c'est ça ?
Par exemple, oui. Par exemple,
la vapeur. De congélation à l'inverse.
Par exemple aussi, oui, tout à fait, vous avez raison. C'est des moyens, en fait, en fonction de la nature de l'infestation. De comment elle est enquistée dans un lieu, comment elle est ancrée dans un lieu, on va adopter tel ou tel moyen. Et puis, aucun lieu ne ressemble à un autre. Votre maison, la mienne, celle des auditeurs, bien évidemment, on a une diversité. Et les punaises, il faut savoir qu'elles peuvent se mettre dans des livres de poche, dans des rainures. Enfin bref, les lieux sont infinis. Mais en fait, finalement, vous parliez dans votre sujet effectivement des frelons, des punaises, des moustiques.
Oui.
Et puis, vous le disiez tout à l'heure par rapport à ce que l'on peut faire vis-à-vis d'une ville. Le maître mot, mais qui n'est pas employé en France, j'insiste là-dessus, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de logique d'anticipation. On a des logiques d'anticipation, par exemple, sur l'amiante. On a des logiques sur les insectes xylophages, qui mangent le bois. On ne doit pas vendre une maison si on a des termites à l'intérieur, etc., etc. Il n'y a pas de logique de prévention sur le bâti en France. Et s'il y avait cette logique de prévention en faisant des états des lieux et ensuite en appliquant la méthode qu'il faut, alors on ne parlerait pas, si vous voulez, de problèmes graves, de situations qu'on a dans le, le bâti social. Effectivement, on serait beaucoup plus serein. Voilà, ça n'est pas le cas aujourd'hui.
Très intéressant.
On fait les choses à l'envers.
Absolument. Et justement, Joël Salomon-Cavin, on vous a retrouvé cette fois. Vous souhaitez répondre à Stéphane Bras sur cette logique de prévention dans le bâti, justement.
Oui, peut-être réagir de manière générale. Il a parfaitement raison. Et en particulier dans le bâti, il y a vraiment un très très gros enjeu en fait à intégrer la question, je dirais, du vivant dans l'architecture. On parle aujourd'hui, on parle de ville verte, on met beaucoup de végétation par exemple, mais on pense rarement en fait aux animaux qui vont avec cette végétation. Parmi ces animaux, il y a plein de choses qu'on aime beaucoup comme des jolis papillons, des oiseaux, mais il y a aussi d'autres animaux qui nous plaisent moins, à commencer par les moustiques. Mmh. Et quand on parle du bâti, il y a aussi l'intérieur du bâti, les punaises de lit apprécient énormément les plaintes, les cafards aiment bien les gaines techniques ou les choses comme ça. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est peut-être de manière plus générale par rapport à votre sujet. On a parlé des moustiques tigres et des punaises de lit. C'est vrai qu'il y a un enjeu. Moi, je travaille sur la ville. Oui. Et les relations aux espèces indésirables en ville, il faut aussi penser la nature en ville de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a plein d'espèces en ville, il y en a qu'on apprécie, qui nous sont bénéfiques, et puis il y en a d'autres, et dans ces espèces-là, qui ont fait de la ville en fait aussi leur habitat, y a un très très gros enjeu à apprendre à les connaître. Mmh. et à se rendre compte de ce qu'elles sont. Enfin, votre auditrice parlait de son expérience avec les punaises de lit. Très souvent, quand on n'en a pas eu à la maison, on ne sait pas à quoi ça ressemble.
Et justement, je crois que vous en avez eu.
Et oui, j'en ai eu. Absolument, c'est comme ça que, disons, mon intérêt pour ces espèces a commencé. Et en effet, avant d'en avoir, je ne savais pas à quoi ça ressemblait et je n'en connaissais pas non plus les traces.
Oui.
C'est-à-dire, quand il y a des petits points noirs, par exemple, sur un matelas, c'est pas très bon signe.
Oui.
C'est le genre de choses aussi qu'on peut voir parfois. Si on va à l'hôtel, on peut regarder le matelas. S'il y a des petits points noirs, ça peut être un signe, en fait, de présence.
Je suis sûre que désormais, vous regardez tout le temps dès que vous arrivez quelque part.
Absolument. Absolument. Absolument.
Mais c'est incroyable parce que c'est vraiment particulièrement traumatisant, les punaises de lit, hein.
Oui, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des gens qui ont des infestations en général, et les gens ont toujours quelque chose à raconter par rapport aux blattes, aux rats ou d'autres espèces, mais les expériences avec les punaises de lit, elles sont jamais drôles en fait. Mmh. Parce que c'est une expérience, elles ne transmettent à ma connaissance pas de maladie, mais par contre elles empêchent de dormir.
Mmh. Oui, puis elles touchent à notre intimité.
Exactement. Elle nous touche dans l'endroit le plus intime, en fait, de notre maison, c'est-à-dire le lit. Elles ont un impact sur la santé physique parce qu'on dort mal, sur la santé morale aussi. On est touché par un prédateur pendant la nuit, en mmh. fait, on est sa proie. C'est un coût social aussi, parce que quand on a des punaises de lit, on n'ose pas aller chez des amis, les amis n'osent pas venir, donc on est seul, quoi, enfin, face à ces attaques, et puis finalement, c'est un coût matériel, c'est-à-dire que il y a des traitements efficaces, c'est ce dont parlait Monsieur Bras, mais ces traitements souvent coûtent assez cher, et il faut pouvoir donc se les permettre. Il y a un enjeu social aussi derrière cette question lutter contre les...
Et on a encore quelqu'un qui souhaite au standard intervenir sur les punaises de lit. C'est Eliane, bonsoir.
Oui, bonsoir, je vais être brève. D'abord, une bonne nouvelle que j'ai lu, une bonne nouvelle, c'est que Monsieur Punaise de lit ne peut plus fabriquer de spermatozoïdes s'il n'est pas approvisionné en sang. Alors déjà, le moral remonte. Alors le tout, c'est de prendre conscience assez vite. Le sandwich, c'est nous. Donc on isole le lit. si vous voulez. Bon, moi, de toute façon, j'ai un lit en métal. On met les quatre pieds, on met quatre petits pots avec quelque chose pour qu'elle puisse ni rentrer ni sortir. Ensuite, il faut accepter de vivre avec pendant peut-être un mois et demi. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'agir avant 3h du matin. Elles sont sorties à 3h du matin. Alors, à partir de ce moment-là, on les attrape très facilement et puis on a préparé une petite bassine d'eau, on les noie. Alors, ce sport-là m'a pris un mois et demi, mais j'ai réussi à m'en débarrasser pratiquement sans produits chimiques. Au niveau des huiles essentielles, c'est vrai, il faut respecter une certaine dilution. Perso, l'huile essentielle de menthe poivrée sent bien meilleure que le tea tree. Alors, je vais quand même dire une dernière arme. Je suis passée, je crois que c'était par Allo Punaise. Enfin bref, j'ai mis des housses spéciales. Mm-hmm. Et maintenant, je suis vigilante parce que j'habite un endroit sur Montpellier où de toute façon, il y en a. Mm-hmm. Je suis vigilante, mais je me sens tranquille. Voilà.
Mmh. Stéphane Bras, vous approuvez tout ce que fait Eliane ? Vous validez ?
Alors bon, n'étant pas sur place, je ne veux pas approuver à 100%, mais de toute façon, la logique et le bon sens peut tout à fait avoir son effet positif. Simplement, juste une phrase pour revenir sur le sujet général de votre émission, c'est qu'en fait, pour emprunter une image de cycliste, lorsque l'on monte une côte et que le paysage change, et ben on change de braquet. Mmh. Or, ce qui s'est passé en France, ou ce qui se passe en France, vous voyez, toutes les personnes intervenantes ici, que ce soit les auditeurs ou les spécialistes, disent qu'il y a finalement quelque chose qui change. Le climat change, nos modes de vie changent. Et la situation, la position que l'on a pris vis-à-vis de ce qu'on appelle les nuisibles ou les nuisants ou les parasites n'a pas changé pour autant. On a encore des cahiers des charges auxquels on a à faire face qui datent des années 60. Mmh. Et on peut pas agir comme dans les années 60, puisque le moustique n'existait pas en 60, vous voyez, par exemple. Mmh. Il n'y avait pas autant de punaises que l'on en a aujourd'hui. Donc, et le frelon asiatique encore moins. C'est la situation générale autour du monde du nuisible, du parasite, que l'on n'a pas pris suffisamment en compte. Et on voit des dégâts, si vous voulez, qui sont au niveau de ce que vous avez cité, des gens qui sont piqués, des rongeurs qui mangent, mais vous avez, comme le disait Joël, les histoires l'image d'un pays peut aller jusqu'à ressentir. À l'époque des Jeux Olympiques, on a été sollicité, moi en tant que porte-parole, j'ai été sollicité, porte-parole de ProSan, par l'Australie, la Chine, les États-Unis, pour savoir si la France, Paris, n'était pas une ville nuisible. Vous voyez les effets macro. Donc, en fait, il faut qu'on change de braquet. On a des pays du sud de l'Europe, comme le Portugal, l'Espagne, qui sont plus matures que nous. Il faut que les pouvoirs publics et les gens qui prennent des décisions, que ce soit des ministres, que ce soit des préfets, prennent le sujet en main. On a l'écoute de certains ministères, mais il faut aller plus avant, travailler sur la prévention, obliger des états des lieux, bâtiment par bâtiment, et vous verrez que le coût global que l'on paye sera beaucoup moindre.
Annabella Fayou, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'on est en retard dans ce domaine ?
Ben, ça va dépendre, en fait, des aspects soit économiques, soit médicaux, parce que, en ce qui concerne le moustique tigre, c'est un moustique d'intérêt médical. Donc, forcément, ça s'adresse à la santé humaine, avec des dispositifs qui sont mis en place, beaucoup plus, peut-être, développés, sachant qu'en fait, entre le 1er mai et le 30 novembre, est déclenché un plan anti-dissémination chikungunya, dengue et zika. Donc, il y a une surveillance renforcée du moustique tigre.
Donc, on est en plein dedans, là.
On est en plein dedans avec les enquêtes entomologiques et épidémiologiques autour des différents cas. Aujourd'hui, on a plus de 150 cas autochtones de chikungunya. Donc, est-ce que la France est plus
énorme,
infectée
hein. Ce qui est beaucoup. On parle beaucoup. De la France métropolitaine.
La France hexagonale, bien sûr. Oui. Et puis, sachant qu'en fait, nos territoires ultramarins, ils doivent faire face quasiment chaque année à des épidémies de dengue. Oui. Et c'est en 2024, il y a eu une grosse épidémie à La Réunion, comme l'a annoncé
Jérémy. On va y venir, justement, avec...
Les cas importés sont arrivés en France qui ont généré ces cas autochtones qu'on observe aujourd'hui.
Absolument. Jérémy Bouillet, justement, où est-ce qu'on en est en ce moment sur l'île de La Réunion ? J'ai vu aujourd'hui que Santé publique France lançait une grande enquête.
Oui, donc à La Réunion, je crois qu'il y a eu plus de 58 000 cas donc confirmés, donc sûrement plus du double en réalité.
Sur une population de 900 000 personnes.
Voilà, donc c'est quand même assez important. Et ça, c'est la pointe émergée de l'iceberg. Hein. Et on a quand même, l'épidémie est finie, hein, elle a fini en juin, mais rien n'exclut qu'elle redémarre pas à la fin de l'hiver austral, parce que comme la proportion de population sensible est quand même encore importante, c'est possible qu'il y en ait. Et ici, eh bien, on est en train de tester des méthodes innovantes pour essayer de lutter contre ces virus, parce qu'au lieu de courir derrière les cas de transmission autochtone en pulvérisant de l'insecticide autour d'eux, si on veut vraiment être efficace, il faut les prévenir, comme disait M. Bras. Et pour ça, une méthode qui peut être utilisée, c'est la technique de l'insecte stérile. Donc nous, on utilise ici une méthode un peu modifiée, qui est la technique de l'insecte stérile renforcée, où on lâche des mâles stériles qui, quand ils vont s'accoupler avec les femelles, vont les stériliser, mais en plus, ils leur transmettent un biocide. Et les femelles amènent le biocide, donc c'est un larvicide, le pyripoxyphène, dans les gîtes larvaires. Et ça va rendre la technique 10 fois plus efficace que la technique de l'insecte stérile classique.
Ça, c'est ce que vous faites en ce moment sur l'île de la Réunion, déjà ?
Oui, alors on l'a déjà fait à petite échelle en Espagne et à l'île de la Réunion. En Grèce aussi, on a démontré qu'on pouvait réduire de 90% les populations du moustique tigre. Et actuellement, on est en train de lancer une grosse étude sur une zone beaucoup plus grande à Saint-Joseph, une zone d'environ 200 hectares. Et on commence d'ailleurs à les lâcher la semaine prochaine. Et on va mesurer l'impact sur la transmission de la dengue et du chikungunya pendant 18 mois.
Donc ça, c'est une piste extrêmement prometteuse. On stérilise les moustiques mâles. Il y a aussi une piste génétique, je crois.
Oui, alors il y en a une autre. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a une aussi basée sur l'utilisation de moustiques infectés par des Wolbachia. Mais il y a plusieurs pistes génétiques. Et la plus, risquée, mais la plus efficace en même temps, c'est ce qu'on appelle le forçage génétique ou gene drive. Parce qu'en fait, là, en lâchant quelques moustiques qui portent une mutation, on peut avoir une diffusion de cette mutation dans la population. Et par exemple, on pourrait transformer tous les moustiques en mâles. Et s'ils se transforment tous en mâles, au bout d'un moment, la population est éliminée, il n'y a plus de transmission. Mais pour le moment, cette technique est encore au laboratoire et on est encore loin de la lâcher sur le terrain.
D'accord. Joël Salomon-Cavin, vous souhaitez intervenir ?
Oui, tout à fait, sur cette idée de responsabilité de la collectivité publique. Il se trouve que le moustique tigre transmet des maladies et du coup, il est identifié comme un problème de santé publique.
Oui.
Et y a des stratégies qui vont, et puis des financements qui vont avec. Et en fait, je voulais juste intervenir, vous avez eu plusieurs personnes qui sont intervenues sur la punaise d'Eli, en fait, qui n'est pas identifiée comme un problème de santé publique. Et du coup, la collectivité public intervient peu et il y a vraiment un très gros enjeu aussi à prendre en compte ces infestations. Ce sont souvent les habitants, les propriétaires, les locataires qui se trouvent à devoir intervenir seuls. Mmh. Et comme je le disais, ça a souvent un coût important et en fait l'État, les communes, les villes devraient aussi prendre en main en fait cette question-là pour des populations qui sont plus déshéritées et qui se retrouvent seul à faire face en fait à ces infestations.
Et ce sera le mot de la fin parce que vous venez d'entendre, il est 20h sur France Inter. Merci à vous tous. On a bien retenu que c'était un problème compliqué, qu'on allait continuer à porter des manches longues quand même en plein été pendant un petit moment et qu'il fallait que les pouvoirs publics s'emparent encore plus du problème. Merci à tous les invités, à vous tous les auditeurs qui êtes intervenus dans cette émission. Il est 20h, on va écouter les infos.